Aujourd'hui, le sujet de cette réunion qu'on avait choisi, c'est les musulmans face au hadith et face à l'histoire des débuts de l'islam. Je rappelle simplement ce qu'on a fait à la dernière séance, parce qu'à la dernière séance, on avait abordé la sira du prophète, donc la biographie officielle, traditionnelle du prophète. Et on s'était posé un peu les questions suivantes. C'était, par exemple, quel impact la vérité historique avait sur la vie spirituelle des participants. C'est-à-dire le fait de savoir que certains éléments de la vie du prophète ne sont pas forcément attestés, historiquement parlant, comme les hadiths notamment. Est-ce que ça a un impact tout simplement sur votre foi? Ou est-ce que vous avez besoin de vous baser, de vous fonder sur une vérité historique attestée? Donc ça, c'était des questions qu'on s'est posées le mois dernier. Je rappelle aussi un petit peu les éléments qu'on avait vus. On avait abordé le fait que la question que les historiens se sont posées, c'est que la figure prophétique au 1er siècle de l'islam n'était pas tellement développée. C'est-à-dire que vous avez des historiens qui, comme Frédéric Imbert, que vous avez sur la petite bibliographie, a noté par la recherche de l'épigraphie dans la péninsule arabique le fait que la mention de Mohammed dans les premières épigraphies de musulmans était quasiment absente, elle était très très peu présente. On avait seulement la mention d'un monothéisme très fort et d'un dieu unique, mais pas la mention de la prophétie de Mohammed. Et en fait, ce n'est qu'à partir du règne de Abdelmalik, à partir de 685-705, que la figure prophétique et la deuxième partie en fait, de la shahada, hein, l'attestation de la prophétie mohammedienne, apparaît officiellement sur les monuments publics, comme l'inscription notamment du Dôme du Rocher, qui a été construit en 691. Donc on a ce fait historique, c'est-à-dire que la figure du prophète n'était pas tellement présente au tout début de l'islam. Donc on s'était posé la question, est-ce que ça avait un impact ou pas sur notre foi? Alors aujourd'hui, donc on va s'intéresser davantage aux hadiths, donc aux récits prophétiques, aux récits traditionnels, qui sont attribués aux prophètes. Un premier élément qu'il faut souligner, c'est que il y a un problème de source pour l'histoire de l'islam, parce que les sources écrites par des musulmans, par la tradition islamique, ont été écrites vraiment tardivement, elles ont été élaborées tardivement. Et c'est un gros problème, notamment pour ce qui est de vérifier l'authenticité des hadiths. En général, les sources ont surtout été écrites au 8e, 9e siècle. Et au 9e siècle notamment, donc, ont été élaborés les recueils de hadiths dits authentiques, sahih en arabe. Je cite les deux principaux, Al-Bukhari qui est mort en 870, ou encore Muslim qui est mort en 875. On a aussi des corpus chiites, qu'il ne faut pas oublier non plus, de corpus de hadith, comme Al-Kulayni qui lui est mort en 940. Donc on a des sources vraiment qui ont été élaborées très tardivement. Donc ça pose problème de savoir sur l'authenticité historique, est-ce que le prophète aurait bien dit toutes ces paroles? Alors, je rappelle simplement, pour si jamais certains ne connaissent pas ces éléments, la composition générale d'un hadith. Un hadith est toujours constitué d'un premier paragraphe qu'on appelle l'isnad, c'est-à-dire la chaîne de transmission, donc l'ensemble de tous les oulémas, des transmetteurs de hadith qui ont fait passer, on va dire, le message. Donc on a une chaîne de transmission d'abord, et ensuite l'énoncé, le contenu vraiment du hadith qu'on appelle le matn. Première question, quelles étaient les techniques d'authentification des hadiths par les oulémas de l'époque? On s'est essentiellement concentré sur une authentification qui ne portait que sur la qualité de l'isnad, de la chaîne de transmission, et la qualité de ses transmetteurs. Donc on s'est mis d'abord à compiler des biographies de rapporteurs, qu'on appelait les tabakat, c'est-à-dire où on mettait les unes à la suite des autres des biographies de tous ces rapporteurs, donc leur vie et leur parcours au sein de l'islam. Et dans ces biographies, ces rapporteurs pouvaient être qualifiés par des critères qui étaient très souvent assez idéologiques et moraux. Donc ils étaient qualifiés de fiables, donc de séka, de confiance, ou de faibles, de da'if, dans la discipline du hadith. Parfois ils étaient qualifiés de menteurs, ou alors de personnes qui oubliaient facilement et qui n'étaient pas très efficaces dans la mémorisation. Et en fait, le problème qui se pose, c'est que quand vous comparez en fait, ces biographies, parfois dans certaines biographies, un rapporteur est qualifié de fiable, et dans une autre, il est qualifié tout subitement de menteur. Donc on a vraiment des critères qui sont très très subjectifs, et il est très difficile, en tout cas pour les historiens, de connaître un peu les rouages de ces critères. Et résultat finalement, les recueils de hadiths dits authentiques, bah, ils sont pas semblables. On a des hadiths qui apparaissent par exemple chez Al-Bukhari, mais pas chez Muslim, qui apparaissent tantôt parfois chez les deux, ou alors juste chez Muslim. Donc on a quand même des recueils qui sont absolument pas identiques, parce que chaque ouléma a fait ses propres choix aussi de sélection. Historiquement donc, c'est très difficile de savoir si le prophète aurait réellement prononcé toutes ces paroles. Et on sait également, mais ça même la tradition l'a reconnu, que beaucoup de hadiths aussi ont été forgés, vraiment fabriqués de toutes pièces, pour servir les intérêts d'un parti politique ou d'un courant de l'islam spécifique. Et ça, il y a eu des recueils de hadiths forgés. Donc c'est attesté dans la tradition, on sait que certains hadiths sont clairement mensongers. Mais la question qu'on peut se poser, c'est n'y a-t-il pas aussi des hadiths mensongers au sein même des hadiths dits authentiques ? Donc voilà, là c'était pour voir un peu une première stratégie d'authentification, c'était la qualité des transmetteurs. Ensuite, en général, après avoir jugé chaque rapporteur du hadith, on va qualifier la chaîne de transmission, si cette chaîne est fiable, donc si elle est mutasil, c'est-à-dire une chaîne de garant ininterrompu, ou alors s'il existe dans cette chaîne de garant des trous générationnels, où ça a sauté une génération d'un transmetteur à un autre. Donc on va essayer aussi de classer en fonction de la qualité de cette chaîne. Alors, aujourd'hui, je vais faire une petite étude de cas sur un hadith donc que je vous ai distribué. Est-ce que quelqu'un peut me le lire d'abord ? Juste parce que j'ai pas de papier aussi.
Il doit être dans quelle page ?
Ouais, c'est le premier.
Tu l'as ?
Sur Dabi qui est...
Allez, va,
bah, ou sinon, bah, tu peux... Non, Sophie, non, mais c'est bon, tu peux le... Okay.
Merci.
L'envoyé de Dieu dit, l'heure du jugement entre crochets n'arrivera pas avant que les Romains ne campent dans le cours de l'Oronte, à Marc ou à Dabiq. Alors s'ébranla contre eux une armée dépêchée d'une ville, Al-Madina, composée de meilleurs habitants de la terre. Quand les deux armées seront sur le point de s'affronter, les Romains diront, laissez-nous avec ceux qui ont pris les prisonniers parmi nous. Nous combattrons ceux-là uniquement. Mais les musulmans répondront, non, par Dieu, nous ne vous laisserons jamais attaquer nos frères.
Ça continue ?
Non, attends.
Bah ça y est, le guillemet est fermé.
Ouais, mais ça continue après.
Ah bah d'accord.
Une citation, oui. En fait, dans le fait.
Puis la bataille s'engagera, un tiers des musulmans prendra la fuite, en s'avouant vaincu, Dieu n'acceptera jamais leur repentir. Un tiers mourra, ils seront les meilleurs martyrs aux yeux de Dieu, et un tiers remportera la victoire. Ils ne seront plus jamais éprouvés et conquerront Constantinople, tandis qu'ils se retrouveront pour partager le butin et qu'ils auront pendu leurs épées aux oliviers. Voilà que Satan créera faussement parmi eux. L'Antichrist a pris votre place dans vos familles. Ils sortiront alors de Constantinople. Quand ils arriveront au Levant, Shem, Satan sortira contre eux, tandis qu'ils se prépareront à le combattre, et ils serreront les rangs, voilà que viendra le temps de la prière. Alors Jésus, fils de Marie, descendra du ciel pour diriger la prière. Quand l'ennemi de Dieu le verra, il se dissoudra comme le sel dans l'eau. Et s'il le laissait aller, il se dissoudrait jusqu'à disparaître, mais Dieu le tuera de la main de Jésus. Il leur montrera son sang sur la pointe de sa lance, rapporté par Muslim.
Merci.
C'est un sacré programme.
Alors, on va revenir ensuite un petit peu sur quelques éléments du contenu. Donc là, je vous ai présenté un petit peu comment les oulémas de l'époque ont inventé cette discipline du hadith, donc les méthodes d'authentification. Mais les historiens actuels, à partir du 19e siècle, jusqu'à aujourd'hui, se sont aussi interrogés, eux, sur comment pourraient-ils faire en tant qu'historiens pour authentifier les paroles prophétiques. Donc ils ont inventé en fait de nouvelles règles pour authentifier ces récits prophétiques. Alors, ils se sont concentrés sur l'authentification, pareil, de la chaîne de transmission, qui reprennent un petit peu les techniques des oulémas traditionnels. Sauf que les historiens partent en général du postulat de départ que, de toute façon, on ne peut pas savoir si ces hadiths ont été réellement prononcés par le prophète ou pas. On ne peut pas avoir des preuves, en tout cas incontestables, de cela. Alors, ce qu'ils essayent de faire, en fait, c'est de repérer ce qu'ils appellent le chaînon commun, le common link en anglais. C'est-à-dire que pour un même hadith, en fait, vous allez avoir plusieurs chaînes de transmission. Il est possible dans plusieurs sources différentes, vous allez avoir des noms, en fait, d'une chaîne de transmission qui est différente à chaque fois. Et entre ces chaînes de transmission, vous allez avoir donc un chaînon commun qui va se retrouver dans toutes les chaînes de transmission. Les historiens se sont donc attachés à essayer de trouver ces chaînons communs. Et selon les historiens, ce chaînon serait un indicateur pour connaître la date où la tradition a été mise par écrit et où la chaîne de transmission aurait été inventée. Le chaînon commun n'est pas forcément l'auteur du hadith, c'est-à-dire l'auteur de l'énoncé du hadith, mais il serait l'auteur en tout cas de la chaîne de transmission, c'est-à-dire qu'il aurait inventé qui aurait pu transmettre ce hadith. En fait, ils estiment que tout ce qui est dans les chaînes de transmission qui se rapportent à Muhammad, aux compagnons, aux successeurs des compagnons, ne sont que des prête-noms pour donner de la légitimité en fait, au contenu du hadith. Donc ça, c'est le postulat des sciences humaines des historiens. Exemple concret sur ce que je vous ai distribué, je vous ai reconstitué donc, sur l'autre feuille en fait, ces chaînes de transmission. Donc j'en ai repéré deux, il y en a peut-être d'autres, hein, mais là c'est deux types de chaînes de transmission que j'ai repérées, et où j'ai essayé de montrer où était le chaînon commun, que j'ai donc mis en gras, et c'est donc un ouléma dénommé Murala ibn Mansour, qui a vécu entre 767 et 827. Donc lui se retrouve dans toutes les chaînes de transmission au sujet de ce hadith. Bonjour.
Ça apprendra les gens d'arriver à faire la répétition.
En attendant,
je me lève.
Le problème, c'est qu'il y a trop de monde en fait. Mais essayez de vous répartir pour.
Merci beaucoup.
Alors. Donc, oui, donc dans ce hadith de Dabiq, vous avez le chaînon commun, donc Mu'ala ibn Mansour, qui est mort en 827. Dans les sources, il est qualifié de traditionniste, de rapporteur de hadith de confiance. Il a résidé en tout cas à Bagdad et il a voyagé dans le cadre de ses études, notamment à Damas. Donc il est dit dans les sources qu'il maîtrisait la discipline du fiqh, donc de la jurisprudence islamique, et qu'il était notamment affilié au hanafisme. C'était d'ailleurs un compagnon d'Abu Hanifa. Alors. Donc, si on reprend les critères des sciences humaines et de l'historien, ce serait Murala ibn Mansour qui aurait, en tout cas, mis par écrit le hadith et qui aurait commencé à essayer de reconstituer la chaîne de transmission. donc qui va là jusqu'au prophète en passant notamment par Abu Huraira. Alors, le problème, il y a aussi un autre problème dans l'isnade de ce hadith en question. Il y a un autre transmetteur, donc, qui est plus ancien que Mu'allah ibn Mansour, c'est Suhail ibn Abi Salih, qui lui est mort entre 754-775, on a quelques doutes. Alors, ce personnage, ce traditionniste, tantôt il est qualifié de confiance dans certaines sources, mais tantôt il est accusé de perdre la mémoire, et d'être assez faible dans la discipline du hadith. Donc d'avoir oublié certains hadiths et oublié certaines formulations. Donc il est même qualifié de faible dans cette discipline. Et c'est d'ailleurs pour cette raison que ce hadith ne se retrouve pas dans Al-Bukhari, parce qu'il a mis de côté en fait ce traditionniste, parce qu'il estimait qu'il n'était pas suffisamment fiable. Alors, le problème de cette méthode historico-critique, c'est que l'analyse, en fait, elle ne porte à nouveau que sur l'isnad et pas le contenu du hadith. C'est-à-dire que cette méthode historico-critique qui s'intéresse uniquement à l'isnad, en fait, elle va avoir les mêmes limites que l'approche traditionnelle. C'est-à-dire qu'elle va être dépendante d'une approche insuffisante pour une datation fiable en raison des biais idéologiques, en fait, et des biais idéologiques de la tradition islamique pour essayer de qualifier quelqu'un de fiable ou de faible, comme quoi les critères sont assez subjectifs. Alors, vous avez quand même d'autres méthodes d'authentification, qui notamment est celle de Michael Cook, qui est dans la bibliographie, qui lui, pour juger l'authentification d'un hadith, il va analyser l'énoncé. Donc vraiment le contenu en fait du hadith, la manière dont c'est formulé. Alors il se pose une première question: quelle est la fonction d'un récit apocalyptique? Donc ici vous avez typiquement un hadith dit eschatologique, c'est-à-dire qui traite de la fin des temps. Donc quelle est la fonction de ce genre de récit? Selon lui, en apparence, c'est une prédiction d'événements ultérieurs par une autorité antérieure. Or, aujourd'hui, on sait que la fin des temps n'est toujours pas arrivée, que la conquête de Constantinople n'a jamais été faite par les Arabes. On peut estimer dans la réalité, un récit apocalyptique, la plupart du temps, est fabriqué après les événements énoncés, en faisant semblant de les prévoir. Donc on appelle cela, en fait, une prophétie ex eventu, c'est-à-dire une prophétie qui est écrite après les événements supposément prédits. Alors, la question qu'on peut se poser, donc là c'est l'analyse, on va dire, du genre littéraire du hadith, la question qu'on peut se poser, c'est pourquoi fabriquer ce genre d'énoncé, de récit. Il y a deux hypothèses qui ont été formulées par les historiens. Soit on formule ces hypothèses pour minimiser des échecs politiques et militaires, en reportant en fait l'événement qui avait été attendu militairement à la fin des temps, c'est-à-dire en reportant une conquête par exemple. Si on n'a pas réussi à conquérir telle ville, ben on va dire, ne vous inquiétez pas, on le fera à la fin des temps. Autre hypothèse qui avait été énoncée, on fabrique ce genre de récit pour rassurer les sociétés pendant des crises graves, des crises militaires très graves par exemple, en interprétant les signes de ces crises graves comme des signes nécessaires pour faire advenir le jugement dernier, et pour faire advenir une nouvelle ère, un monde nouveau qui serait où la justice divine régnerait. Donc ça, ce sont les deux hypothèses qui ont été formulées, on peut évidemment en trouver d'autres. Alors, quand on analyse l'énoncé d'un hadith, on peut saisir des éléments factuels que l'on va retrouver à l'intérieur de ce hadith. Alors attention, tous les hadiths ne peuvent pas être soumis à ces éléments-là, parce qu'il y a certains hadiths qui sont purement moraux, sur des critères éthiques et moraux, on n'a pas des éléments historiques précis. Mais ici, on a de la chance dans celui-ci, puisqu'on a la mention de trois lieux qui existent réellement: Constantinople, Al-Ahmak et Dabiq. Ces trois lieux, je vous les ai mis sur la carte que vous avez sur la deuxième page, enfin au verso. Donc désolé, c'est pas une qualité superbe, mais vous avez bon, Constantinople, hein, vous savez que c'est Istanbul actuellement. Dabiq, c'est au nord d'Alep.
Dabiq, c'est là,
au nord de la Syrie.
Pardon, excuse-moi. Désolé. Donc vous avez... Alep qui est ici, Dabiq c'est juste au nord-est, un petit peu plus ici. Et en fait les Ahmak, c'est toute une zone qui passe ici en fait. Donc c'est vraiment dans la même région, au nord d'Alep.
En plus, Dabir a été étudiant par l'État islamique.
Ouais.
Oui.
Oui.
Ah voilà, c'est là.
Les hamacs, c'est juste à, au nord-ouest en fait de Dabik. Istanbul, c'est vraiment à l'opposé de la carte. C'est
Istanbul, ce serait Istanbul, ce serait là. Quoi.
C'est là.
C'est
donc on a ici des éléments hein, géographiques concrets, tangibles, qui sont énoncés dans ce hadith. Alors il faut savoir qu'on retrouve à peu près ce même hadith sous d'autres versions avec des lieux différents justement. Donc ce qu'on peut faire pour essayer un petit peu de comprendre mais pourquoi, enfin quelle a été l'importance de ces lieux au cours de l'histoire de l'islam, on peut se poser cette question, c'est pourquoi ces lieux sont cités, est-ce qu'ils ont eu de l'importance dans l'histoire de l'islam? Et quand on regarde les chroniques des historiens musulmans de l'époque, notamment le célèbre Al-Tabari qui est mort en 923, on constate que Dabik a eu un rôle fondamental depuis le début de l'ère Omeyyade, donc depuis les années 660. Dabik est devenu en fait un campement militaire où se rassemblaient toutes les armées islamiques. Et ensuite, ces armées, une fois qu'elles étaient rassemblées, elles montaient au nord, elles passaient justement par la plaine des Ahmaks, pour remonter dans l'Empire byzantin qui était donc au niveau de la Turquie actuelle. Donc Dabik avait un rôle stratégique et militaire fondamental chez les Omeyyades. Et non seulement chez les Omeyyades, mais jusqu'aux premiers Abbasides, jusqu'au début du 9e siècle. Donc il y a à partir de ce moment-là deux possibilités, je dirais, de datation de ce hadith. Si on estime que ce hadith aurait été inventé pour minimiser un échec militaire. La première fois que l'on trouve dans les sources une mention explicite entre Dabik et Constantinople, c'est pour le siège de 717, 717-718, donc vous savez sans doute qu'à ce moment-là, les troupes de Maslama ibn Abdelmalik, donc le fils du calife, a été envoyé avec des troupes pour essayer de conquérir Constantinople. C'est un échec total, hein. Les troupes arabes ne réussissent pas à prendre la ville de Constantinople. Et les sources nous disent que pendant que Maslama est en train de conquérir Constantinople, vous avez le calife de l'époque, Suleyman, qui est resté à Dabik, en retrait en fait, et il a fait la promesse, selon les sources, de rester à Dabik jusqu'à sa mort, tant que Maslama n'était pas revenu en lui apportant la bonne nouvelle de la prise de Constantinople. Et Suleyman est mort à Dabik. D'ailleurs, vous avez un tombeau qui a été construit, qui a été détruit pendant la guerre en Syrie. Il y a un ou deux ans, je ne sais plus exactement. Bon, ce tombeau a été totalement détruit. Donc vous avez sur la... Enfin, c'était pas une ville d'Abik, hein, c'était vraiment un campement militaire, donc vous n'aviez pas de fortifications ou quoi que ce soit. Vous aviez des anciennes fortifications, mais c'était surtout un lieu de rassemblement. En tout cas, Suleyman est mort à ce moment-là. Et c'est ensuite Umar II, qui a régné de 717 à 720, qui a succédé à Suleyman. À Dabik, la cérémonie de succession s'est faite à Dabik. Donc vous avez des grandes figures symboliques de l'islam qui sont assimilées à ce lieu, en fait. Donc on peut estimer que ce hadith a pu être inventé après cet échec de Constantinople pour essayer de minimiser, en fait, cet échec et essayer de reporter à la fin des temps la prise de Constantinople. D'ailleurs, ça correspond aussi à la période de vie du fameux Souheil dans la chaîne de transmission, qui est qualifié de menteur, enfin en tout cas qui ne fait pas l'unanimité dans les sources, c'est la fin de la période omeyyade. Deuxième hypothèse de datation, si on estime que cette tradition elle a été forgée pour rassurer les sociétés frontalières en cas de crise grave, en période de crise grave militaire. Alors on peut même imaginer que cette tradition a d'abord circulé oralement sous l'influence des notables frontaliers ou des populations frontalières, qui utilisaient aussi ce genre de récit pour se rassurer elles-mêmes. On sait qu'à la fin des années 770, les Byzantins sont vraiment très insistants en matière de raids militaires sur justement toute cette zone. C'est-à-dire que pendant plusieurs années, très fréquemment, ils attaquent en fait cette zone. Et les Byzantins tentent vraiment de reprendre ce qu'on appelle la plaine des Ahmaks, parce que cette plaine, hein, elle était très fertile, beaucoup de pâturages, notamment pour les tribus nomades, hein, donc c'était très stratégique. Et en fait, à cette époque-là, les Byzantins menacent explicitement Dabik et également Alep. Or, le texte du hadith, vous avez cette mention au début que la fin des temps n'arrivera pas tant que les Byzantins n'auront pas campé dans les Harmacs et ou Adabiques. Alors, c'est un style littéraire qui évoque clairement, là, on va dire, la crainte que les Byzantins arrivent jusqu'aux portes de Dabik et menacent directement ce lieu. Donc, on peut estimer que le hadith, hein, il a pu aussi être élaboré à cette période abbasside, cette période de crise, à la fin du 8e siècle. Elle reflèterait plutôt un contexte, du coup, abbasside et non plus un contexte omeyyade. Donc, voilà. Donc, pour terminer, sachez aussi que, je ne sais pas si vous le savez, mais Daesh a une revue de propagande en anglais qui est surnommée Dabik, en lien direct, très explicite, à ce hadith, et en reprenant de manière totalement anachronique en fait, ce discours, puisque pour eux, les Byzantins sont la coalition internationale, ou les Turcs, hein, qui occupent la même place géographique que les Byzantins, et donc Constantinople et Istanbul, etc. Donc vous avez toute une superposition en fait, des époques dans leur argumentaire. Et en fait, donc, ils réutilisent en fait ce hadith en essayant un petit peu de faire un micmac générationnel et un peu anachronique. Voilà. Donc, simplement pour conclure, là, je vous ai donné donc la version historico-critique de la perception des hadiths. Encore une fois, c'est des hypothèses déjà historiques. Hein, on peut pas dire que c'est la vérité parce que finalement, on n'en saura jamais rien. Mais la question, il faut vraiment que ça vous renvoie, je dirais, à vous-même, c'est en quoi ces faits historiques, encore une fois, font écho à votre spiritualité. Qu'est-ce que ça impacte sur votre vie spirituelle. Voilà.
Merci. C'est un exposé très riche et très intéressant au niveau de l'approche qu'on peut avoir historico-critique. Moi, je vais m'appuyer sur ce qu'a dit Eva. Et je vais passer sur un autre plan qui va être beaucoup plus en rapport avec la question confessante et puis avec le moutazilisme aussi, ça nous intéresse un petit peu quand même. Première chose, c'est que traditionnellement en islam, il y a deux écoles qui se sont opposées pour comprendre la religion et pour vivre la religion. Il y a ce qu'on va appeler l'école du Hijaz et l'école de l'Iraq. L'école du Hijaz, c'est l'approche du naql, de l'imitation, on va imiter, on va s'appuyer sur ce qui a été fait par les anciens. On va s'appuyer sur la sunna, sur les hadiths attribués au prophète. Et on va donner l'importance première au texte, donc aux sources, au sama. Sama dans le sens où un héritage. L'héritage textuel, l'exemple des compagnons, etc. Donc on subordonne la vie religieuse à ce qui a été fait avant. Ça, c'est l'école hijazite. Et c'est l'école qui va donner naissance au malikisme, au shafiisme et surtout au hanbalisme. Donc ce sont ces écoles-là qui sont des écoles hijaziyah. Et il y a une seule école qui s'est maintenue, une école qu'on va appeler iraqiyah, et qui est al-ra'y, donc les gens qui vont privilégier l'opinion et l'approche rationnelle. Pourquoi ? Parce que dans la première école, l'école hijazite, ils disent « Nous avons des textes, nous devons suivre les textes. » Point. Ça s'arrête là. L'école irakienne dit les textes et les prescriptions religieuses, par exemple, ont une halla. Une halla, c'est une raison d'être, une cause, un motif. Tout ce qu'on fait a une raison d'être. Tout ce qu'on fait a une réponse à, en fait, un but de Dieu. Dieu, ce but, c'est de nous faire du bien à nous. Et nous, les prescriptions religieuses répondent donc à quelque chose qui est bien, qui sont bien en eux-mêmes. Et donc, tout a une raison d'être. Vous voyez ce que je veux dire ? C'est-à-dire que les Irakiens, quand je dis Irakiens, je ne parle pas forcément d'Irakiens Irak, même si ça a été le cas aussi, mais je parle des gens qui vont être plutôt les représentants des écoles de Basra et de Koufa. Eux vont dire, tout a une logique, tout a une raison. Et donc, à partir de là, on peut très bien se remettre à la raison, à la compréhension, à l'entendement, à la démarche rationnelle, et on sera en fait en harmonie avec le message divin. Vous voyez ? C'est-à-dire qu'ils ouvrent la porte au raisonnement. Abu Hanifa, donc le hanafisme, est la seule école qui s'est maintenue, l'école du Ra'i. Abu Hanifa, il privilégiait le raisonnement plutôt qu'un hadith. Et d'ailleurs, alors c'est intéressant parce que Abu Hanifa est quelqu'un qui est très mal vu par beaucoup de traditionnistes. Ibn Hanbal a écrit des choses très dures contre Abu Hanifa. Ibn Hazm en parle de manière très très mauvaise, on est presque au niveau de l'insulte, hein, je veux dire vraiment. Le fils d'Ibn Hanbal, alors lui, il est encore pire que son père par rapport à Abu Hanifa, et on a vraiment une opposition frontale à ce niveau-là. Et donc vous avez, dans l'histoire de l'islam et dans la pensée musulmane, ces deux courants qui se sont opposés. Et donc le hanafisme est une expression de cette école-là qui était du coup très critique par rapport au hadith, parce que Abu Hanifa, par exemple, vous savez que c'est quelque chose qu'on retrouve dans les livres. Le premier, Abu Hanifa a écrit un livre, on n'a rien d'Abu Hanifa. Hein. Aucun de ses productions à lui propre ne nous est parvenu. Nous avons un livre qu'on attribue à Abu Hanifa qui s'appelle Al-Fiqh al-Akbar, la grande compréhension, qui est en fait la théologie, pas du fiqh à proprement parler, puisque c'est la compréhension mais des grandes thématiques, du dogme. Et en fait, on sait très bien, quand vous lisez la biographie de Muhammad Abu Zahra, qui a écrit une biographie sur Abu Hanifa très intéressante, il le dit clairement. Abu Zahra n'est pas un révolutionnaire, hein, il est dans la lignée frériste, entre guillemets, mais il est quand même plutôt ouvert par rapport à la démarche. Et lui, il dit, Al-Fiqh al-Akbar, on sait pertinemment que ce n'est pas Abu Hanifa, c'est les disciples qui ont cherché. Et Abu Hanifa est quelqu'un qui ne reconnaissait pas, d'après les historiens, Abu Hanifa ne reconnaissait pas les hadiths. Ce qui se passe dans les... Non, les historiens, j'entends. Ce qui se passe, c'est que dans les livres religieux qui circulent sur Abu Hanifa, on sait que dans le livre qu'on n'a pas de lui, il a retenu 17 hadiths. 17 hadiths, c'est quand même, si vous comparez avec aujourd'hui, 17 hadiths, c'est, je ne vais pas dire pas grand-chose, je veux dire, c'est absolument rien. On sait qu'il y a à peu près un million de hadiths qui circulent, en comprenant les sahih, les hassan, les da'if, les mursal, les mawdu'i, il y a à peu près 1 million de hadiths qui circulent. Et du coup, Abu Hanifa en retient 17. Mais on sait aussi que dans la tradition, ce qui va se passer, c'est qu'il va y avoir cette confrontation entre l'école donc de la raison et l'école de l'imitation. Et quand l'école de l'imitation va s'imposer, ben on va se sentir obligé d'aller dans leur sens. Et du coup, au 10e, 11e siècle, vous avez des Hanafiyas qui vont produire un livre qui va s'appeler Musnad ibn Abu Hanifa. C'est-à-dire qu'un recueil de hadith d'Abu Hanifa. Alors que les spécialistes savent très bien que c'est n'importe quoi, parce que c'est pas possible. Abu Hanifa, par exemple, était très critique par rapport à des grands rapporteurs comme Abu Huraira, il ne reconnaissait pas. D'accord, Abu Huraira est très controversé d'ailleurs à plusieurs niveaux, mais enfin bon. Ce qui m'intéresse, parce que la rime, ouais, c'est quand même, Mu'tazilisme, bon. Ce qui est intéressant d'ailleurs, c'est que le Mu'tazil a été, historiquement j'entends, était considéré comme des Hanafiyas. C'est-à-dire qu'il y avait une forme d'identité et de solidarité. Si vous étiez Mu'tazil, c'est qu'on savait que vous étiez Hanafiyas. Et même l'inverse, si vous étiez hanafite, on était presque sûr que vous étiez mutazilite en théologie. Pendant longtemps, ça a été une sorte d'évidence, ça allait ensemble. Et ça, on le retrouve aussi par rapport à l'attitude par rapport au hadith. Vous avez deux grandes tendances mutazila par rapport au hadith. Vous avez la tendance qu'on va qualifier première, la plus ancienne, donc depuis... Si on remonte à Waas, elle est dans les disciples immédiats de Waas, en passant notamment par Al-Nazam, qui est très connu pour ça. Al-Nazam, alors, on dit, il avait exigé, en fait, le recours à la comparaison entre les textes de hadith pour prouver leur authenticité. C'est-à-dire que quand il y avait un hadith, il le mettait en jeu avec d'autres hadiths pour voir s'il n'y avait pas des contradictions. Mais il le mettait aussi en comparaison avec le texte coranique. Et s'il y avait opposition avec le texte coranique, il rejetait le hadith. On sait, d'autre part, que... on sait. En tout cas, c'est une hypothèse qui existe de plus en plus, qui dit qu'en fait, Al-Nazam avait une attitude qui était beaucoup plus radicale. C'est-à-dire qu'il ne reconnaissait pas du tout le hadith. Il utilisait ces procédés-là pour, en fait, les exclure. Les exclure tout court, mais qu'on ne connaissait pas. Al-Jahid, donc très connu aussi. Jahid était quelqu'un qui exigeait de revenir à un esned, donc à une chaîne de transmission... alors au moins une forme de mutawatir, de tawatur, c'est-à-dire de multi-confirmé. Il faut que le même hadith soit rapporté avec les mêmes termes, mais exactement les mêmes termes, mais avec des chaînes radicalement différentes. C'est-à-dire qu'il faut que chaque membre dans la chaîne soit différent. Autant vous dire qu'il y en a très très peu des comme ça, pour ne pas dire qu'il n'y en a pas. Et en fait, dans la première tendance Mu'tazila, on avait du coup ce qui se dégage, c'était une forme en fait de certains qui disaient simplement ne me parlez pas de hadith, je ne sais pas ce que c'est, je ne reconnais pas. D'autres qui disaient, si, si, on prend, mais en mettant des critères tellement durs que factuellement, en fait, ils ne prenaient pas. Ben, c'est un peu ça. Parce que c'était la primeur de la raison et de la réflexion sur l'imitation. Et vous avez la fin, c'est-à-dire à partir du 11e siècle, 12e siècle, au moment où le moutazilisme vit des moments difficiles, où depuis la Risale al-Qadiri, en 1017, on a une politique de répression contre le moutazilisme, etc. Vous avez à ce moment-là une sorte de rapprochement qui commence à être fait avec... En tout cas, on va se rapprocher un peu des sunnites en essayant de trouver des terrains d'entente. Et là, vous avez un penseur qui s'appelle Al-Ka'bi, qui est très connu pour avoir été celui qui s'est intéressé à la notion des hadiths dans le moutazilisme et qui va écrire d'ailleurs un Musnad al-Mu'tazila. Imaginez, comme Abu Hanif, hein, Musnad al-Mu'tazila, c'est-à-dire une sorte de recueil de hadiths reconnu. Et Ibn al-Nadim, je ne sais plus comment dire en arabe, tellement lu en français que je ne sais plus comment dire en arabe, qui a écrit le Fihrist. Ibn al-Nadim, Nadim, voilà, c'est gagné. Ibn al-Nadim, qui a écrit un livre qui est très connu, qui s'appelle le Fihrist, qui est en fait une sorte de compendium ou d'index, où il recense, en fait il a essayé de recenser, c'est un bibliothécaire, c'est un Mu'tazili, il a essayé de recenser toute la production qui existait à son époque. Mais en disant un mot, alors c'est vraiment un mot hein, sur les auteurs, lui il était chiite, il était sunnite, il était chef et il était machin, il était machin. Et il dit que dans ce Musnad, ce fameux Musnad al-Ka'bi, Musnad al-Mu'tazila, il y a eu 150 hadiths de recueil. Donc c'est en étant, là on est dans une époque où Mu'tazila ont recours aux hadiths. C'est pour dire quand même qu'on est très très loin aujourd'hui des... vous savez que quand on fait de l'ijtihad, on vous dit que vous devez connaître les versets coraniques qui sont muhkam, qui sont décisionnels, qui sont péremptoires. On estime ce chiffre, alors les exégètes ne sont pas tous d'accord, on va de 150 à 500 versets. Et pour les sunans, les hadiths, on estime que pour être vraiment de l'ijtihad, il faut connaître les 1000. Il y en a 1000 hadiths qui sont considérés comme péremptoires, ceux qui emportent la décision. 1000 sur 1 million à peu près. Ça fait pas beaucoup. Mais on est très loin de ces chiffres-là par rapport au hadith chez les Mu'tazila. Histoire de ne pas être trop long, je vais quand même m'intéresser, enfin, prendre quelques minutes sur cette question-là. C'est-à-dire que l'école hijazite, l'école du naql, de l'imitation, c'est l'école qui s'est imposée en milieu sunnite. C'est l'école qui s'est imposée et qui a influencé partout dans le milieu sunnite. Même les Hanafiyas, aujourd'hui, dans le monde hanafite, les pays hanafites, la majorité hanafite, sont des pays où on a peur. Je pense au Pakistan, je pense au Bangladesh, je pense même la Turquie. D'ailleurs, la Turquie, j'ai parlé avec un spécialiste un peu de tout ce qui est théologie en Turquie, il me dit qu'en réalité, les Turcs, oui, ils sont officiellement hanafites. Mais en réalité, dans leur application, ils sont beaucoup plus proches du chaféisme que vraiment du hanafisme. Et le chaféisme, en fait, est une forme très, très imitative. Très imitative. Même Ibn Hanbal, en fait, ne se réclamait pas fondateur d'école. Ibn Hanbal a été formé par chaféisme. Et Ibn Hanbal reste, au fond, une sorte d'un chaféisme. Donc, vous avez cette problématique aujourd'hui. Le poids du hadith a pris est devenu tellement important dans notre vie religieuse. Je ne sais pas, l'expérience a dû être vécue par un certain nombre de gens ici, mais quand vous allez à la mosquée, il n'est pas rare que l'imam n'emploie jamais un verset coranique, mais qu'il vous emploie une quinzaine de hadiths. An, selon machin, le prophète a dit. Exemple typique, l'exemple du Dajjal. Exemple de l'heure. La fameuse Sa'a, dans le Coran, c'est vraiment quelque chose qui est intéressant à faire. Vous prenez la question de la Sa'a, donc l'heure, pour prendre l'heure finale, la fin des temps, et dans le Coran, il y a une sorte de constance. C'est Sa'a, elle vient à l'improviste, on ne sait pas quand elle vient, elle nous prend au dépourvu, et voilà, on passe. Et malgré ça, parce que le poids des hadiths est devenu tellement démesuré, on en est arrivé dans la vie religieuse à développer des sciences de la fin des temps, des signes mineurs, puis des signes majeurs. Je veux dire, c'est quand même affolant. Je vais vous lire juste un passage, verset coranique, non pas hadith. Mais en fait, je n'ai même pas pris de hadith sur cette question-là, parce que c'est même plus des hadiths qui existent pour la question de la fin des temps. Ce sont des bibliothèques et des ouvrages entiers qui existent.
Mode d'emploi.
Ah oui, mais c'est affolant. Alors que quand vous entendez ce passage-là, sourate 2, le Baqara, verset 187-188, donc directement je lis en français. Hein. On t'interroge sur l'heure. Donc c'est un message coranique, s'adresse au prophète. On t'interroge sur l'heure du jugement dernier. À quand son ancrage ? Dit, la connaissance nous réside comme mon Seigneur. Lui seul, le moment venu, la fera éclater. Qu'elle sera lourde aux cieux et à la terre, d'autant qu'elle ne vous prendra qu'à l'improviste. On t'interroge dessus comme si tu l'avais scruté. Dit, la connaissance n'en réside qu'en Dieu. Mais la plupart des hommes ne le savent pas. Dit, je ne m'arroge personnellement ni avantage ni dommage, sinon ce que Dieu voudra. Si j'avais connaissance du mystère, j'abonderai en bien, nul mal ne m'effleurerait. Mais je ne suis là que pour donner l'alarme, porter l'annonce à un peuple capable de croire. Verset est quand même. Et il y en a plusieurs de comme ça, hein. C'est pas le seul. Et il n'empêche. Je vous laisse juste aller dans une librairie islamique. Vous allez dans le rayon signe de la fin des temps. Et là. Et là, c'est, je veux dire, j'ai même pas un hadith à vous opposer à ça. J'ai des bibliothèques à vous opposer à ça. Et c'est ça qui est affolant, c'est que là, cette question-là, il y a des questions sur lesquelles le Coran, si on va prendre le libre-arbitre, il y a des passages où on comprend clairement que c'est libre-arbitre, et d'autres qui c'est vrai qu'on peut les comprendre comme étant une prédestination, par exemple. Donc là, il y a débat, on peut vraiment en réfléchir. Mais ici, sur cette question-là, le Coran est monocolore. C'est-à-dire que là, il y a un seul discours. L'heure arrivera à l'improviste, on ne sait pas, on sera surpris de ça, etc. Même dans la sourate tremblement de terre que tout le monde connaît, fait partie des Jazam à de la fin, quand le tremblement de terre arrive et tout, mais qu'est-ce qui lui arrive ? L'être humain est là, mais qu'est-ce qui lui arrive ? Non, le Zelzel. C'est-à-dire qu'on regarde, on se dit, l'être humain regarde, mais qu'est-ce qui lui arrive ? Mais si la science des fins des temps, science, pardon, vous avez compris ce que je veux dire, avec l'annonce qui est préalable depuis des années, avec le dégel qui arrive, avec le Mahdi, avec Aïssa, etc., on n'est pas étonné, on est au courant que c'est la fin des temps. Mais là, on se pose la question. Et malgré ça, vous avez un cas typique ici sur comment, dans notre vie religieuse, aujourd'hui, le poids des hadiths est devenu... c'est affolant. C'est affolant. Et je tenais à faire ce petit rappel. Et peut-être que déjà à l'époque ancienne, les partisans de l'école de l'Irak, l'école du Ra'i, avaient déjà peut-être aussi vu le potentiel de l'imitation dans ce sens-là. C'est-à-dire qu'on va créer des choses qui n'existent pas dans le Coran et va en faire des bases absolues. Et si vous ne croyez pas à ça, vous êtes un mécréant. D'accord ? Alors que ce n'est pas dans le texte coranique. Et ça, faut vraiment. Ça, c'est quelque chose dont il faut. Il ne faut pas qu'on oublie, il faut qu'on le garde à l'esprit par rapport à tout ce qu'on peut entendre, ce qu'on peut voir, tout ce qu'on peut lire. Après, si je reviens à mon violodingre ou mon cheval de bataille qui est la tizelle, on voit très bien que dans le moutazilisme, cette question-là, la question des hadiths, a été très vite réglée, entre guillemets. Un hadith qui ne contredit pas le Coran et qui ne contredit pas les données élémentaires de la raison, on peut le prendre. Un hadith, parce qu'en fait, la question de la fiabilité de la chaîne de transmission, ou du matn, le mot utilisé, employé, on sait très bien qu'en réalité, on peut dire ce qu'on veut, on ne saura jamais si le prophète l'a vraiment dit ou non. On ne saura pas. Par contre, ce qu'on sait aussi, c'est l'inflation des hadiths. Plus on s'est éloigné de l'époque du prophète, et plus les hadiths ont augmenté. Et plus on s'est éloigné de l'époque du prophète, et plus la chaîne est devenue d'or. Parce qu'on savait quels étaient les noms qu'il fallait utiliser. Donc, on vous rattache les meilleurs noms, et puis on dit des choses qui sont parfois hallucinantes. Enfin... Moi, je vous dis, c'est quelque chose que je faisais beaucoup à une époque et que j'ai arrêté de faire, c'était d'ouvrir Bukhari ou Muslim au hasard et de lire des hadiths au hasard. Et des fois, vous tombez sur des trucs, c'est entre le ridicule, entre le monstrueux, entre... Parfois, vous tombez aussi sur des hadiths très beaux. Il y a des hadiths qui sont magnifiques. Il faut pas... Et ça, j'en arrive à mon dernier point, je vais m'arrêter là. C'est juste que... Il y a des points techniques que je n'ai pas développés parce que c'est un peu... Mais... Il y a des hadiths aussi qui sont porteurs de sens. Il y a des hadiths qui sont vraiment, qui peuvent nous apporter, qui sont des sagesses qu'on peut garder, qu'on peut utiliser Attention, je ne suis pas en train de vous dire qu'il faut jeter tous les hadiths à la poubelle, mais je dis simplement qu'il faut, enfin il faut, c'est, chacun est libre de faire ce qu'il veut, mais en tout cas dans cette perspective un peu, on va réfléchir à ce qu'on fait, comment on agit, etc. Ben, il ne faut pas hésiter à réfléchir sur les hadiths et puis à les lire aussi, parce qu'il y en a vraiment, je ne sais pas quel hadith je peux vous prendre, un hadith que j'aime beaucoup parce que je trouve qu'il est... Il n'est pas marrant en tant que tel, mais quand on entend le discours dans les mosquées aujourd'hui et qu'on voit ce hadith, on peut se poser des questions. C'est le hadith qui... Je vous le dis en arabe ou en français ? Français ?
Français.
Ouais, français. Français, c'est le plus simple. Non, parce que juste le début du hadith en arabe, il est fort. Juste, je dis en français.
Les deux
après.
Au français après arabe.
Français après arabe, voilà. Ouais. Celui qui instaure, donc c'est rapporté par un musulman. Celui qui instaure dans l'islam une bonne habitude aura une récompense. Et une récompense chaque fois que quelqu'un après lui fera cet acte, sans qu'il leur soit diminué quoi que ce soit de leur récompense. Et celui qui instaure dans l'islam une mauvaise tradition se chargera d'un péché, et d'un péché chaque fois que quelqu'un œuvrera avec après lui, sans que leur péché ne soit diminué en rien. Sahih Muslim. En fait, qu'est-ce qu'il nous dit ici ? C'est la possibilité de faire de la bédah, mais de la bonne bédah. Je vous le dis en arabe, vite fait. Je l'ai mis en arabe, dernière page. Là. Qala Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Men sanna, c'est ça qui m'intéresse en arabe. Men sanna fil islam sunna hasana. Celui qui crée une sunna en islam, une bonne sunna. Falahu ajruha wa ajr man amala biha ba'dahi min ghayri an yanqus min ajru ujurihim shay. Wa men sanna fil islam sunna sayyi'a. كان عليه وزرها ووزر من عمل بها من بعده من غير أن ينقص من أوزارهم شيئا. Et ça, c'est-à-dire que quand vous entendez les discours, etc., on a l'impression que c'est, vous pouvez pas réfléchir en dehors des clous. Et en fait, en vous appuyant sur, alors après, je vous dis qu'on peut trouver des textes dans le Coran qui sont parlants, mais j'irais même en prenant les éléments reconnus par les majoritaires, on va dire, bah vous trouvez des éléments comme cela, et cela, on... Après, il y en a d'autres, hein. j'en ai gardé 5-6 hadiths, après on pourra en parler, il n'y a pas de souci, mais en tout cas, c'est ce qui est intéressant, c'est juste de montrer ce poids-là, cette évolution historique, et voir aussi comment aujourd'hui on peut très bien aussi vivre sa foi, en essayant de sortir de ce carcan-là, parce que, je m'arrête là après, Régis Blacher, qui est un islamologue, un spécialiste de l'islam, un arabisant, donc de la belle époque, on va dire, entre guillemets, quand je dis belle époque, hein, je vais mettre entre guillemets, il disait, s'il y a de la libéralité dans l'islam, c'est dans le Coran que vous le trouvez. C'est pas dans le hadith. Pourquoi ? Parce qu'en fait, le hadith, vous trouvez de tout. Vous trouvez des choses magnifiques, et vous trouvez des choses atroces. Vraiment, je dis vraiment atroce, il n'y a pas d'autre mot. Et le truc, c'est que finalement, l'élément, en fait, l'aiguille, elle se trouve où finalement ? Elle se trouve sur celui qui pratique, sur le rang, sur celui, la personne qui croit. Comment elle va agir, à quoi elle va donner plus de poids, etc. Donc voilà, je m'arrête là, mais voilà, j'essaie d'apporter quelques éléments plus terre à terre, j'allais dire. Voilà, merci pour votre... Si vous avez des questions, des remarques, des...
Ah, maintenant, c'est...